Bien, tous et à toutes, tous ceux que je n'ai pas encore salués, Dieu vous bénisse et vous garde. Hein, ça fait toujours plaisir de se retrouver ensemble pour pouvoir partager la parole de Dieu. Et c'est vrai que la parole de Dieu est tellement riche. Et en lisant le texte biblique de ce soir, je me suis dit encore un passage qui est très beau. Et j'ai envie de dire à chaque fois, ce passage-là, vraiment, il est très beau, il est unique. Hein, mais en fait, c'est de toute la Bible qu'on pourrait dire cela. Et vous allez juger de cela. On va lire donc Philippiens au chapitre 12, au chapitre 2, verset 12. Ce serait difficile de trouver un chapitre 12 à Philippiens. Hein. Alors, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17 et 18. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toujours toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Voilà. Nous avons dans ce passage des exhortations de Paul à marcher fidèlement, à marcher droitement avec le Seigneur Jésus. Et c'est vrai que tout cela est dans un contexte. Hein. Ce n'est pas un texte que l'on prend en dehors d'une pensée générale. La pensée que Paul a exprimée au cours de cette épître, c'est l'unité. Parce que comme l'Église était divisée, eh bien, il était nécessaire qu'il leur parle d'unité. Mais en fait, il ne parle pas d'unité comme nous aurions parlé d'unité. Nous aurions écrit un traité de théologie sur l'unité. Nous aurions vanté le pour de l'unité et le contre de la désunion. Et nous aurions été dans toutes sortes de paroles qui seraient allées dans une certaine logique. On aurait écrit même un traité de l'unité. Mais il n'en est pas ainsi de la parole de Dieu. C'est tout en poursuivant cette idée, et Paul donc est inspiré par le Saint-Esprit, il poursuit cette idée, mais il la poursuit dans des directions qui parfois nous semblent étranges. Mais quand il dit, c'est le faites toute chose sans murmure ni hésitation, hein, verset 14, afin que vous soyez irréprochables et purs, etc., etc., comme des flambeaux qui brillent dans le monde. C'est-à-dire que quand il y a un problème, on n'est pas toujours la personne qui perçoit le plus que nous avons un problème. Voilà, je voudrais vous raconter l'histoire de Franz Liszt. Franz Liszt, vous avez entendu parler, un grand compositeur, mais il était aussi un grand pianiste. Il ne faisait pas que composer de la musique, il la jouait. Et il la jouait à la perfection sur un piano. Et alors un jour, il parlait avec un de ses amis, et bon, je ne me rappelle plus à quel sujet, mais il est arrivé à dire, si je m'arrêtais de jouer un jour, parce qu'il disait qu'il jouait 8 heures par jour, du piano. Alors il disait, si je m'arrêtais un jour, le lendemain, je m'en rendrais compte. Si je m'arrêtais 2 jours, mes amis s'en rendraient compte. Si je m'arrêtais une semaine, le monde entier le saurait. Voilà. Donc c'est comme cela, et j'illustre cela, hein, briller comme des flambeaux dans le monde. Si votre joie est ternie, si vous laissez quelque chose entre Dieu et vous, vous n'allez peut-être pas, comme Franz Liszt, vous en rendre compte tout de suite, mais les autres vont le savoir. Ils vont voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. Et c'est pour cela que nous sommes responsables. Et c'est pour cela que cette histoire d'unité qui faisait la désolation de l'Église des Philippiens, eh bien, transparaissait vers le monde et les gens voyaient qu'il y avait quelque chose qui se passait dans l'Église qui n'était pas correct. Alors, ils n'étaient pas forcément au courant qu'il y avait une division, mais le contact qu'ils avaient avec les frères et sœurs, eh bien, ils sentaient que leur joie n'était pas la même, que leur amour n'était pas comme... et puis leur serviabilité, leur... etc. Tout ce qui fait que la vie chrétienne, eh bien, porte un bon témoignage vers l'extérieur. C'est pour cela que il dit, vous avez besoin de revenir à votre bon sens et ne plus tolérer qu'il y ait quelque chose de pareil dans l'Église, parce que le monde a le regard sur vous. Vous ne vous rendez pas compte, mais les gens de ce monde nous regardent. Je ne veux pas me faire d'illusions, on a l'impression d'être un tout petit groupe. C'est vrai, nous sommes un petit groupe devant l'immensité qu'il y a de cette ville de Paris. Mais néanmoins, eh bien, il y a un regard des autres sur nous. Que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Les gens nous connaissent et ils savent qui nous sommes. Et ils en savent même plus que vous le pensez. C'est comme ça. J'avais un stand biblique à l'université de Perpignan. Et bon, j'ai eu quelques problèmes à un certain moment. Eh bien, des étudiants de l'université sont venus me voir et m'ont dit, mais tu as un problème? Je dis, mais quoi, vous le savez, je ne vous connais même pas. Ah, mais tout le monde le sait. Voilà. J'avais fait quand même 13 ans. C'était pas au bout de... Je l'ai fait 13 ans. Totalisé 13 ans de stand biblique à l'université de Perpignan. Mais ça devait représenter la quatrième ou cinquième année de ce séjour que je faisais, de présenter la Bible, de parler aux étudiants. Eh bien, ils me connaissaient. Et ils savaient des choses que je ne savais pas. Et ils parlaient entre eux. Et il y a même un étudiant un jour qui est venu me dire « Mais j'ai dû reprendre les communistes parce qu'ils étaient en train de répandre le bruit que tu roulais dans une voiture haut de gamme, etc. » Mais ben évidemment, je roulais avec ma petite voiture, c'était une DS. Et donc je venais avec ma DS, mais à l'époque, je l'avais récupérée au milieu d'un champ. Et je l'avais acheté 500 francs et quand j'ai démarré, elle a démarré, il n'y a pas de problème, elle était restée 2 ans. J'ai démarré et puis j'ai voulu freiner et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas vérifié les freins, il n'y en avait pas. Donc bon, le Seigneur m'a protégé, j'ai quand même fait une vingtaine de kilomètres avec cette voiture sans frein. Mais c'est pour vous dire, il avait défendu ma cause, je ne le connaissais pas. Et il m'avait défendu auprès de personnes que je ne connaissais pas non plus. Alors, vous savez, on ne sait... Et c'est très bien que l'on ne sache pas toutes ces choses, parce qu'on est gardé de l'orgueil, de la suffisance, et de croire que l'on est quelque chose. Mais nous sommes des flambeaux dans le monde. Nous sommes dans la lumière du monde. Le Seigneur Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. On ne prend pas la lumière, on ne la cache pas. On ne la met pas sous le boisseau. Parce que si vous mettez la lumière sous le boisseau, vous savez ce qui arrive? Quand j'étais à l'école, on avait un petit cours. C'était l'école en primaire. L'instituteur avait allumé une bougie. Et puis, il avait mis un verre sur la bougie. Et qu'est-ce qui s'est passé? La bougie s'est éteinte. Ce n'est pas qu'on ne voit plus la lumière, c'est qu'il n'y a plus de lumière. Alors, nous avons besoin que notre lumière, elle brille auprès des autres et qu'ils la voient. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, comme je vous ai dit, tout ça s'inscrit dans la pensée de Paul de parler de l'unité. Et il y a donc cette grande idée derrière de marcher dans la communion fraternelle, de marcher dans la compréhension les uns des autres, dans le support les uns des autres. Et alors, j'ai commencé par verset 14, mais si on revient au début, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. » Alors là, il y a plus d'un mystère dans ce verset. Hein. Et il y a même des fausses doctrines qui ont été lancées avec cela. Mais il dit, comme vous avez toujours obéi. Alors vous voyez le langage doux et fraternel de Paul. Il ne se présente pas comme un grand théologien qui a leur quelque chose à leur expliquer et leur dire, vous êtes très mal conduits. Vous devriez désormais vous conduire mieux. Et vous devriez faire en sorte que... Mais il leur dit, mais bien-aimés, vous avez toujours obéi. C'est la première fois que je vous vois désobéir. Est-ce que c'était des chrétiens parfaits? Pas du tout. Ils étaient comme tous les autres. Il y avait leurs imperfections. Mais il a dit, vous avez toujours obéi. Ou du moins, vous avez fait l'impossible pour obéir le mieux possible. Et c'est... Donc il les appelle ses bien-aimés. Il leur dit, vous avez toujours obéi. Il leur dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Là, je vais faire un peu de théologie. On a besoin, parce que ce verset doit être pris dans une pensée plus générale. Il est dit ici, travaillez à votre salut. Donc nous, quand on parle de salut, souvent, on parle de conversion. Alors c'est vrai, mais ce n'est pas exact. C'est la conversion, c'est une partie du salut. Quand on prêche l'évangile, on pense que l'on parle de la prédication de l'évangile. C'est vrai, mais cela non plus n'est pas exact. Le salut et l'évangile sont trois choses qui sont ensemble. Là aussi il y a une trinité, hein, dans la parole de Dieu, souvent vous avez une idée, et qui est composé de trois. Et alors, c'est un des principes d'herméneutique. Donc, vous avez la première chose, c'est la conversion. La deuxième, c'est la sanctification. Et la troisième, c'est la glorification. Et c'est ce que Paul appelle dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, eh bien, c'est l'adoption. C'est le jour où on va voir Christ face à face, et ce jour-là, nous allons être changés. Tout ce que nous n'avons pas pu être, même notre corps, tout va être changé. Et alors, c'est la glorification. Nous aurons un corps semblable à celui de Jésus-Christ. Alors, que ce soit tôt, que ce soit tard, que Christ vienne enlever son Église, ou que ce soit par la résurrection, que ce soit d'une manière ou d'une autre, quand nous allons voir Christ face à face, nous serons changés dans la totalité de notre être. Mais, donc ça, c'est la troisième partie. Mais la partie du milieu qui s'appelle sanctification, c'est celle qui concerne toute votre vie, depuis votre conversion jusqu'à votre glorification ou votre mort, hein, votre décès. Donc, pendant toute cette période, nous marchons dans la sanctification. Alors c'est dans ce passage qu'il dit « Travaillez à votre salut ». Il ne dit pas « à votre sanctification », mais « c'est travailler à votre salut, travailler à votre sanctification. On est participant, on est actif dans la sanctification. C'est-à-dire que un jour j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, je suis né de nouveau, j'ai été réconcilié avec Dieu. Ça s'est passé en une seconde. Mon salut est définitif. Je ne peux pas le perdre. C'est un contrat qui est passé entre Dieu, qui est scellé par le sang de Jésus-Christ. Et c'est absolument indestructible. C'est Dieu qui s'est engagé par le sang de Christ à nous sauver. Voilà. Ça, c'est absolument inchangeable. Mais par contre, la sanctification, je peux faire des progrès, et je peux même stagner, et je peux même retourner en arrière. Paul le disait, ce n'est pas comme à des adultes que j'ai pu vous parler, c'est aux Corinthiens. Il a dit, c'est comme des enfants en Christ. Parce qu'il n'y avait pas eu de croissance dans l'Église. Parce qu'ils en étaient encore à la division. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis d'un tel. Moi, je suis de Christ. Il y avait des partis. Hein. Même il y avait le parti de Christ. Et s'il n'y a pas de parti de Christ, nous marchons avec Christ. Christ n'est pas un parti. Hein. On n'est pas dans le camp de Christ. On est à Christ. On lui appartient. Et donc, quand Paul a parlé, il a parlé ici de la sanctification. Et on y travaille. Donc, on n'est pas inactif. Il y a une participation. Un chrétien grandit dans la sanctification. Il marche de progrès en progrès. C'est même, il y a un verset que je voudrais vous lire dans Colossiens, au chapitre 1, et c'est versets 28 et 29. Alors, c'est un verset qui n'est pas très lu, mais qu'on ne remarque pas souvent, mais il a son importance. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Voilà. Hein. Quand il est dit tout homme, ce n'est pas seulement les hommes, hein, c'est les femmes, c'est tout être humain. Hein. Donc, c'est Paul travailler à la sanctification des autres. Et il dit, et je travaille avec la force qui agit de Dieu, qui agit puissamment en moi. Donc c'est un travail que les serviteurs de Dieu, ils ont cette responsabilité de conduire les frères et sœurs dans la sanctification, de leur expliquer les nécessités de la vie chrétienne et comment et pourquoi on agit dans la vie chrétienne et quelle est notre responsabilité. Et donc il y a des exhortations, il y a des enseignements, il y a des encouragements, il y a même parfois des rectifications. On a certaines choses, on les a crues d'une manière, et puis non, c'est pas de cette manière-là, c'est comme ça. Et c'est au fur et à mesure, eh bien, on apprend, on grandit. On ne peut pas aller plus haut que ce que l'on sait. Il y a des chrétiens qui savent peu. Donc leur vie chrétienne, leur sanctification est à un très petit niveau. D'autres grandissent et veulent savoir. Et ils méditent, ils approfondissent la parole de Dieu et ils mettent en pratique la parole de Dieu. C'est comme, vous savez, c'est l'eau coule, hein, et vous avez, on ne l'arrête pas de couler. Elle ne fait pas d'effort à couler. Voilà. Et c'est la vie chrétienne, c'est comme cela. On marche de progrès en progrès. On cherche à marcher avec le Seigneur, à vivre pour lui. Et c'est vrai, je dis que la source ne fait pas d'effort. C'est vrai. Mais quand nous marchons avec Christ, quand nous marchons dans sa volonté, eh bien, on n'a pas un effort conscient. C'est vrai qu'il y a des tentations, il y a des épreuves, il y a des contraintes. Satan essaye de nous tenter. Mais en fait, on a la joie de notre salut, la joie de marcher avec Christ. Et c'est comme quand vous marchez dans la rue et vous ne vous dites pas, tiens, je vais m'étudier à marcher. Mais vous marchez, tout simplement. Je me rappelle de cette histoire. C'est l'homme le plus rapide du monde. Il s'appelait Jesse Owen. Jesse Owen a été l'homme le plus rapide du monde. Maintenant, il est plus rapide que lui. Hein. Mais Jesse Owen était son grand-père était esclave aux États-Unis. Donc, Jesse Owen avait très proche hein, de le monde des Blancs, il ne connaissait pas beaucoup. Mais c'était un garçon très rapide. Et un jour, un Blanc l'a repéré, il a dit, tu cours vite. Hein. Et alors, il lui a dit, tu devrais apprendre à courir, et je vais t'aider à courir. Alors, il lui a appris. Et il a fait une course qu'il a complètement ratée. Il lui a dit, tu as mal couru, pour une seule chose, une seule raison, tu as pensé à courir. Il ne faut plus penser à courir, il faut courir. Il a dit, je vais te montrer les plus rapides coureurs qui existent. Alors il l'a amené dans une course de chevaux. Et il a dit, tu as vu comment il court vite? Alors il dit, oui, mais il ne pense jamais à courir, il court. Et j'ai trouvé cette histoire très intéressante pour la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens se disent, mais oui, mais j'aimerais bien ceci, mais j'aimerais bien cela. Mais on se dit, mais oui, mais je ne sens pas, mais je n'ai pas, mais je ne suis pas assez. Oui, mais ma famille a été, mais je n'ai pas eu l'éducation qu'il fallait, mais je ne comprends pas tout dans la Bible. Mais arrêtez tout ça et vivez la vie chrétienne. Lisez la parole de Dieu, lisez ce que vous comprenez, méditez-le et mettez-le en pratique. Et faites confiance au Seigneur. Avancez pas à pas. C'est, vous n'avez pas besoin de compter le nombre de pas que vous avez fait dans votre journée, de pas de la, dans la vie chrétienne. C'est, vous marchez avec le Seigneur, vous vivez dans sa communion, vous faites les choses qu'il met devant vous. C'est pour cela qu'il leur dit, comme vous avez toujours obéi, travaillez votre salut. Vous, c'est, on marche, la vie chrétienne est une marche dans l'obéissance, c'est une marche simple. C'est si il fallait écrire un traité de théologie pour pouvoir vivre la vie chrétienne, je peux vous dire, il n'y aurait que des théologiens qui pourraient vivre la vie chrétienne. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ a appelé ses disciples, qui étaient-ils? Mais des pêcheurs sur le lac de Galilée. Un jour, j'ai fait le calcul. Sur ce que je peux savoir, il y en avait six qui étaient de Bethsaïda en Galilée. Six. Après les autres, on ne sait pas, hein. Il y en avait un qui était de Cana, il y en avait un qui était peut-être, bon. Mais en tout cas, la moitié, c'était des gens de Bethsaïda en Galilée. C'est des pêcheurs sur le lac de Galilée. On aurait dit, oh, bah, c'est des paysans, c'est des pêcheurs, ils n'ont pas d'instruction. Eh, mais on leur a fait remarquer. On avait remarqué que ils étaient des gens du peuple. Sans instruction, mais ils avaient été avec Jésus. C'est les apôtres. On a remarqué ça, c'est dans les actes des apôtres, tout à fait au début. C'est, on les a remarqués comme ayant été avec Jésus. C'est notre vie chrétienne, notre marche chrétienne n'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit de marcher dans l'obéissance et à la lumière de la parole de Dieu. Vous marchez dans la lumière que vous recevez, pas dans la lumière que vous allez recevoir. Ou dans ce que vous serez dans 10 ans, mais marchez dans ce que vous avez maintenant. Bien sûr, cherchez à savoir davantage, à approfondir, à avancer, comme vous avez toujours obéi. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Hein. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, parce que c'est pas Paul qui est le maître des Philippiens, c'est Christ. Donc ce n'est pas parce que Paul est présent qu'ils doivent vivre leur vie chrétienne. Qu'il soit absent ou qu'il soit présent, qu'il y ait du public devant nous ou qu'il n'y en ait pas, nous marchons à la lumière de Dieu et sous le regard de Dieu et dans la communion avec Dieu. Et c'est Dieu qui comptabilise tout cela. C'est Dieu qui le voit. Ce ne sont pas les hommes. Après, les hommes en constatent les fruits. Mais qu'ils le constatent ou qu'ils ne le constatent pas, ça n'a aucune question, ce n'est pas une question pour nous. Ce qui est important, c'est de marcher de progrès en progrès et de marcher dans la sanctification. C'est ce que Paul disait aux Thessaloniciens. Il leur dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est la volonté de Dieu. C'est que nous marchons dans une sainteté qui est la sainteté de Christ en nous. Alors c'est vrai. Ça me permet d'ouvrir la chose, hein, d'aller un peu plus loin. Mais ce n'est pas, vous ne fabriquez pas de l'amour. Si vous avez l'amour, c'est l'amour de Christ. Hein, comme on en a parlé dans l'Épître aux Philippiens, c'est, et même il est dit, de quelle charité l'Esprit vous anime, hein, nous avons appris. C'est de quel amour vous avez, de la douceur de Christ, la patience de Christ, la joie qui est en Christ. Tout cela nous vient de Christ. Nous avons besoin de Christ vivant en nous. Et plus il vit en nous, eh bien, plus nous marchons dans la sanctification. Parce que c'est Christ qui est notre sanctification. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous étudions, bon, maintenant je vais avoir plus d'amour, hein, plus de patience, plus de ceci, plus de cela. Mais vous êtes un fabricant de ces choses. Et vous êtes autant dans la légalité que celui qui fabrique un faux billet. Hein. C'est ce que Dieu veut, c'est quelque chose d'authentique. Il n'y a qu'un amour qui plaît à Dieu, c'est celui de Christ en nous. Et c'est pour cela qu'il faut laisser vivre Christ et marcher dans sa lumière, marcher dans sa communion et lui demander, Seigneur, vis ta vie en moi. Que ce soit ta patience, que ce soit ta bonté. Que ce soit ta douceur, que ce soit ta joie. Et c'est, les gens doivent voir Christ vivre en nous. Et ce qui est, c'est pas que nous avons, nous, réussi quelque chose. Et c'est, cela nous préserve de l'orgueil. Parce que si nous réussissons à avoir beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de ceci et cela, Ça va. Bon, maintenant je passe à l'étape suivante. Hein. Maintenant je vais m'étudier à avoir plus de générosité. Allez, hein. Voilà. On a avancé dans l'amour, la patience, dans ceci et cela. Maintenant on va faire, on ouvre une nouvelle, on se diversifie hein, pour parler comme ce monde. Mais pas du tout. C'est Christ en nous. Et ce que les gens veulent voir, c'est Christ. Ils veulent pas voir une contrefaçon. Ils veulent pas voir ce que vous arrivez à faire. Ils veulent voir Christ vivant en vous. Et Christ, c'est la marque de l'authenticité de la vie chrétienne. Quand les gens voient Christ vivre en nous, ils disent ça, c'est une vie authentique. Ça, c'est quelque chose que je veux vivre. Parce que c'est cette vie-là qui fait envie. Les autres vies, vous êtes simplement des gens qui avez réussi. Parce que vous, si je veux prendre le, vous prenez des religions comme le bouddhisme et des religions de ce genre qui, où les gens se contraignent, ils arrivent à avoir une certaine bonté, une certaine douceur, une certaine patience et une certaine sérénité même. On ne peut pas leur reprocher. Ils ont ces, arrivent à avoir ces choses-là. Mais c'est l'homme. C'est l'homme qui le fabrique. C'est pas Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ce que Paul disait aux Colossiens. Hein. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est nous marchons avec Christ, nous vivons en Christ. Paul disait aux Corinthiens dans la deuxième épître, il dit, je connais un homme en Christ. C'est il ne le nomme pas, mais on se rend compte que c'est lui. Mais parce que il a des choses tellement grandes à dire que il ne veut pas se dire. Eh bien, moi j'ai vu, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Non, je connais un homme en Christ. C'est seulement en Christ qu'il a pu voir toutes ces choses, que Dieu a pu utiliser cet homme. Parce que ce n'est qu'un homme, pas plus que nous, pas plus grand, pas plus petit. C'est. Après, nous disons, oui, mais Paul, c'était quand même un grand chrétien. Pas du tout. Il était un homme comme les autres et il avait besoin simplement de laisser Christ et il a laissé Christ vivre en lui. Et ce qu'il a été, il n'y a pas de raison que nous ne le soyons pas. Et c'est peut-être vous dites, oui, tu mets la barre un peu haut, Jean-Alain. Hein? C'est le, mais il n'y a pas, c'est biblique. C'est le, même le Seigneur Jésus a dit que nous ferons des œuvres plus grandes que celles qu'il a faites. C'est, il n'a pas dit, essayez d'atteindre les œuvres que j'ai faites, vous verrez. Non, il a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Et vous savez quelles sont les œuvres plus grandes? Parce qu'il a guéri des malades, il a changé de l'eau en vin, il a multiplié des pains, il a multiplié des poissons, et il a ressuscité des morts. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de plus grand que lui? Mais quand vous amenez une âme au salut, quand vous dites à une personne, eh bien, c'est pour l'éternité. Tandis que le miracle que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur cette terre était limité à cette terre. Les gens qu'il a guéris, ils sont morts. Même ceux qu'il a ressuscités, ils sont morts après. Ceux qui avaient mangé des pains, eh bien, ils ont dû manger de nouveau des pains. C'est, ils n'ont pas été rassasiés par cette nourriture. Mais nous, il nous a confié le ministère de la réconciliation et nous faisons des œuvres plus grandes que les siennes parce que nous apportons de ce qui est à lui. Et nous le donnons aux autres. Et nous amenons les autres à grandir en Christ, à aller plus loin avec Christ, à marcher dans la joie de Christ, et dans la patience de Christ, et dans l'amour de Christ, et dans la douceur de Christ. Et c'est quelque chose qui est de merveilleux. Donc, ce n'est pas parce que les yeux sont tournés vers nous que nous accomplissons ces choses. C'est parce que nous les faisons par obéissance, comme vous avez toujours obéi. Nous voulons plaire à Dieu. Et nous voulons lui obéir. Et ce qui est créé le plus grand obstacle dans notre vie chrétienne, c'est la désobéissance. Vous savez, un jour, je cherchais à aller plus loin dans ma vie chrétienne. Et donc, à plusieurs reprises, j'ai fait ce souhait. Mais c'était une période où je n'avais pas de réponse, sauf une. C'est la parole est près de toi, dans ton cœur. Et Dieu ne me donnait pas d'autre direction. Et je cherchais, je priais, je cherchais, je priais. J'avais toujours ce verset qui me revenait. Et un jour, je me suis rendu compte, mais tu cherches quelque chose que tu sais déjà. Tu n'as pas besoin que Dieu te le redise, tu as besoin de le pratiquer. Et c'était là le problème. C'était un problème de désobéissance. C'est, on cherche à aller plus loin, mais Dieu dit, tu ne vas pas plus loin. Tu accomplis ce que tu dois faire et après, tu pourras aller plus loin. C'est si c'est compréhensible, hein, voilà, vous prenez votre voiture et vous allez, je ne sais pas, hein, dans une ville qui est à 50 km. Ben, pour arriver à cette ville, ben, il faut partir. Si vous ne partez pas, ben, vous ne serez jamais. Ça, c'est la logique de la route, hein. Vous voulez aller d'un endroit à un autre. Il faut partir de l'endroit de. C'est le départ. Pour arriver, il faut partir. Mais dans la vie chrétienne, c'est comme cela. Tant qu'il n'y a pas l'obéissance, ben vous ne pouvez pas arriver. Et l'obéissance, c'est souvent un pas de la foi. On dit, Seigneur, tu me dis, je le fais. Pourquoi? Parce que je crois en toi. Sur ton ordre, nous le ferons. Et on le fait. Et on avance. Et on voit Dieu agir. Et Dieu faire des choses, et Dieu nous bénir, Dieu conduire, parce que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Ça, c'est un précepte qu'un de mes professeurs un jour m'a donné, hein. Dieu travaille avec ceux qui travaillent. C'est Dieu nous conduit quand nous avançons. Le peuple d'Israël ne serait jamais arrivé dans la terre promise s'il n'avait pas quitté l'Égypte. Il a fallu qu'un jour, il quitte l'Égypte. Et ce jour-là, ils étaient des hommes libres et ils ont fait le chemin jusqu'à la terre promise. Ils n'y sont pas rentrés tout de suite parce que ils ont désobéi. Et Dieu leur a reproché leur désobéissance et leur incrédulité. Parce que la désobéissance et l'incrédulité marchent ensemble. C'est souvent, nous n'obéissons pas parce que nous disons, oui, mais on ne va pas y arriver. Mais le Seigneur nous dit, avance et tu verras. Quand le peuple est sorti d'Égypte, eh ben, ils ont dû mettre les pieds dans la mer Rouge, hein, et puis elle s'est ouverte. Ils ont avancé, et puis au fur et à mesure, ben, la mer était ouverte. Elle est restée ouverte jusqu'à ce que le dernier passe. Et quand le dernier est passé, eh ben, elle s'est refermée. Mais il fallait marcher dans l'obéissance s'il n'y avait pas eu l'obéissance. C'est jamais la mer Rouge et puis après le Jourdain ne se serait ouvert parce qu'il fallait toujours le pas de la foi, l'obéissance de la foi. Et c'est comme vous avez toujours obéi, travaillé à votre salut avec crainte et tremblement. Parce que nous ne sommes que des humains. On n'est pas des supermans. On n'est pas des héros qui font des choses magnifiques et merveilleuses. On est des êtres humains comme les autres. Mais on avance à la lumière de Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Mais on doit être fidèle. La parole de Dieu dit. Dieu a parlé. Alors, on suit pas à pas ce que Dieu a dit. Et au fur et à mesure, eh bien, Dieu nous ouvre des portes. Et il éclaire notre chemin. Et il nous amène toujours plus loin. Et toujours plus loin. Parce que on a eu l'audace d'avancer sous le regard de Dieu et de faire ce qu'il nous demandait. Donc, ensuite, le verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir ou sa volonté parfaite. Hein. C'est quand on marche dans l'obéissance, eh bien Dieu nous donne la force de continuer. Mais il faut toujours ce premier pas qui avance et qui met les pieds. Et alors Dieu crée en nous le vouloir et le faire pour persévérer et pour continuer. Parce que nous sommes devant notre dénuement, notre humanité, notre incapacité. C'est Dieu a agi avec les choses folles de ce monde, les choses qu'on méprise, les choses qui ne sont pas. Mais ces choses, ces personnes ont eu l'audace de croire en Dieu. Et alors Dieu les a utilisées. Mais vous dites, mais jamais, 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 Dieu, si j'avais été à la place de Dieu, j'aurais utilisé un tel. Oui, mais c'est Dieu qui l'a fait. Il l'a choisi. Quand il était question de choisir le roi d'Israël, c'est le huitième qu'on a choisi, le dernier, David. Le petit David, le petit rien du tout, le berger. Oh, il en reste encore un, mais il garde les brebis. Vous savez, il n'est pas capable de faire autre chose. Hein. C'est bien trop petit. Mais Samuel a vu Éliab, le frère aîné, qu'un gaillard imposant. Ah, il s'est dit, certainement j'ai là le loin de l'Éternel. Et Dieu lui a dit non, je l'ai rejeté. Parce que l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. C'est les choses folles de ce monde. Alors quand ces choses folles ont la folie d'obéir à ce que Dieu dit, eh bien, Dieu les comble. Et Dieu leur donne la force de poursuivre le chemin et de continuer, d'avancer, de progrès en progrès, parce que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire, selon sa volonté parfaite. Dieu, alors ce n'est pas Dieu qui souverainement impose sa volonté bonne, agréable et parfaite, hein, comme certains le pensent comme ça, hein, mais c'est quand on avance, quand on obéit, alors que Dieu donne sa volonté qui est parfaite, hein, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Quand on obéit, dès que l'on obéit, alors on a la suite du programme. Et au fur et à mesure que vous avancez dans l'obéissance et dans la lumière, eh bien vous verrez que vos forces augmentent, et que votre compréhension augmente, et que ce qui vous faisait peur, eh bien, diminue, parce que vous marchez dans la force de Dieu, dans la communion avec Dieu, dans l'obéissance à Dieu, dans la confiance à Dieu. Et au fur et à mesure, eh bien, vous voyez combien Dieu est puissant, combien il agit, combien il fait de choses merveilleuses qui dépassent tout ce que l'homme peut imaginer. C'est pour cela qu'il est dit aussi, pour finir, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » On aime bien dire « Mais Seigneur, c'est trop difficile, envoie quelqu'un d'autre. » Hein, Moïse a fait ça aussi. Il a dit, mais non, mais je n'ai pas un homme de la parole facile. Ce n'est pas d'hier ni d'avant-hier, tu le sais de toute façon. Pourquoi tu me demandes ça? Il discutait avec Dieu, mais Dieu lui a presque fâché avec lui. Il a dit, je t'envoie. C'est moi qui t'envoie. Sans murmure ni hésitation. Dieu a parlé, c'est sa parole. Vous y croyez? Dieu a dit, alors faites-le. Sans murmure ni hésitation. Dieu l'a dit. Je le crois, Seigneur. Si c'était un autre qui le disait, je ne pourrais pas le croire. Mais toi, tu l'as dit. Alors, parce que toi, tu l'as dit, alors je le fais, j'avance. Et je te rends grâce de ce que tu me donnes la force pour aller plus loin. Parce que c'est toi. Je te fais confiance. Voilà. On verra la suite plus tard.